pense qu'on va aller rejoindre notre historien en résidence, parce que là, la partie gossip est terminée.
Pour l'instant.
Pour l'instant, c'est ça. Bonjour, Marcel, ça va bien?
Oui, vous me présentez comme quelqu'un qui n'aime pas les cancans.
Non, pas du tout. Il fallait juste arrêter Yvan, parce qu'il y en avait beaucoup sur sa liste.
Puis vous, si je me fie à votre photo sur Facebook, la musique vous intéresse beaucoup, vous?
Absolument, tout à fait. Ben, évidemment, je suis pas limité à l'histoire comme n'importe qui. Là, j'ai des intérêts multiples et effectivement, les cancans, les potins, c'est pas au-delà du genre de choses auxquelles je peux m'intéresser. Là.
Ben, je pense que tout le monde aime ça.
Oui, on veut pas nécessairement l'admettre.
Mais... Non, c'est ça. Ça, c'est comme un plaisir coupable, comme on disait il y a quelques années, là où on avait une émission qui passait des chansons. Qu'on se disait, ben, ça se peut pas que cet artiste-là aime ce type de chanson-là, mais oui, c'était ça. Alors nous, on va revenir plutôt à notre chronique histoire, si on veut finir par la faire. Alors Marcel, aujourd'hui, vous allez poursuivre votre élan hein, de nous rappeler ce qui se passait il y a 60 ans. Et vous nous amenez au 1er mars 1965, alors qu'il y a l'explosion d'une conduite de gaz à la salle qui laissera des traces de toutes sortes de façons.
Vous savez, Francine et Yvan, au Québec, on n'a pas l'habitude d'utiliser des dates d'événements célèbres dans notre odonymie. En France, par exemple, ça se voit fréquemment. Vous entrez une date comme le 6 juin 1944, qui est le débarquement de Normandie dans un moteur de recherche. Ça vous sort une pléthore d'avenues, de rues, de places du 6 juin 1944 à travers le pays. Chez nous, c'est pas très fréquent, mais il y a des cas. Dans l'arrondissement La Salle, à Montréal, on retrouve une place du 1er mars 1965 qui rappelle la terrible explosion qui avait fait 28 morts dans ce qui était alors Ville-La Salle, une tragédie dont on a commémoré le 60e anniversaire plus tôt cette semaine. C'était un matin de fin d'hiver, comme n'importe quel autre, dans La Salle Heights, un complexe d'habitations de 35 bâtisses situé près d'une voie ferrée un peu au sud du canal Lachine. Certains des bâtiments sont des blocs séparés, d'autres sont 4 ou 5 blocs de 3 étages collés les uns aux autres qui forment un U. C'était un complexe d'habitations à loyer modique, encore relativement neuf. Les loyers étaient de 30 à 57 $ par mois au moment de l'inauguration, au milieu de la décennie précédente. À 8h10, dans l'avant-midi du 1er mars, un U de 4 blocs, situé au coin des rues Bergevin et Jean Milot, est soufflé par une explosion. Il y avait eu une première explosion plus légère qui a alerté un certain nombre de résidents. C'est la deuxième qui a été vraiment dévastatrice, faisant pratiquement disparaître une grande partie du U et mettant le feu au reste de l'édifice. L'explosion a aussi creusé un cratère de 6 mètres de profondeur. Les pompiers de La Salle arrivent dans les minutes qui suivent. Une chose que j'ai remarquée, le chef des pompiers de La Salle, il s'appelait Irénée Tremblay, était également le chef de police de la municipalité. Et je ne sais pas si c'était courant dans des petites villes comme celle-là à l'époque. Et on sent, en lisant les comptes rendus de l'affaire, qu'il y avait une certaine désorganisation dans le maintien de l'ordre sur le site. Ça avait peut-être quelque chose à voir avec le fait que le chef de police était occupé à des besognes plus urgentes, disons. Et rapidement, il y a des policiers, des pompiers d'autres villes qui arrivent, bien entendu. Et parmi les premiers secouristes à se présenter sur les lieux de la conflagration sont les marins d'une base de la marine canadienne qui était située à quelques rues de là, qui sont arrivés au pas de course. Ils ont passé la matinée à fouiller les décombres, en plus d'aider à contrôler la foule de curieux agglutinés autour du site. Une fois l'incendie éteint, on a démoli ce qui restait de l'édifice et là, on a pu se lancer réellement à la recherche des victimes et de possibles survivants. On a aussi évacué d'autres édifices avoisinants. Plusieurs d'entre eux avaient été endommagés, en plus de couper le gaz à près de 300 logements du secteur. Les recherches vont durer toute la journée, toute la nuit, sous la lumière des projecteurs. On mettra beaucoup de temps avant de publier un premier bilan, qu'on imagine très lourd. On annoncera finalement 27 morts et une quarantaine de blessés, dont une dame nommée Mary Ksopko, C-Z-O-P-K-O, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui a succombé à ses blessures à la fin du mois, portant le bilan final à 28 morts. On essaie toujours de se consoler dans des cas comme ça en se disant que ça aurait pu être pire. On parlait de 135 à 150 résidents au total pour l'immeuble. Une explosion semblable en pleine nuit aurait pu causer une hécatombe encore pire. Il y avait beaucoup d'hommes, de femmes aussi probablement, qui étaient au travail ou en route pour le travail. Au final, les victimes, ce sont surtout des femmes et des enfants. Il y a deux mères qui sont décédées en même temps que trois de leurs enfants de moins de 12 ans. Il y a trois sœurs, 8, 5 et 2 ans au nombre des victimes, mais leurs parents ont survécu. Et la moyenne d'âge des personnes décédées est vraiment basse. On a 4 ans, 2 ans, 4 mois, 1 mois. En regardant le bilan des victimes aussi, autre constatation, c'était un milieu de vie très hétérogène. On a des noms à consonance francophone, anglophone, des gens de différentes origines, Merrick Sopko, dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi des McGuigan, des Reaneck, des Bischoff, des Silver, des Thibault, des Kennel. Et les gens vont nous rapporter aussi, les journaux vont nous rapporter aussi des récits de sauvetage héroïques. Une jeune fille de 12 ans qui a lancé son frère de 3 ans par la fenêtre du deuxième étage. On est en mars, on présume qu'il a atterri dans un coussin de neige. On n'aurait peut-être pas pu faire ça en une autre saison. Mais au-delà du bilan, il faut penser aussi aux survivants, aux sinistrés qui, dans bien des cas, avaient tout perdu. Il y aura un grand élan de solidarité dans la communauté pour venir en aide aux victimes, et un élan qui va venir très vite. Ça survient à 8 heures dans la matinée. Déjà dans l'après-midi, on distribue des annonces disant qu'on recueillait les dons en vêtements et en articles de première nécessité dans un Steinberg des environs. Et les journaux du lendemain nous montrent le monticule de vêtements qu'on avait amassés en réalité dans les premières heures après la tragédie et qu'on avait déjà commencé à distribuer. Les gens se sont rués pour donner du sang. Les hôtels, les restaurants ont donné des repas. On a établi des gîtes d'urgence. Il y a les chevaliers de Colomb notamment qui ont trouvé des endroits où des familles sans logis pouvaient passer la nuit. On a des télétons qui sont organisés. Celui des deux réseaux de télévision anglophone, le 6 et le 12, à l'époque, a permis d'accumuler 140 000 $. Le téléthon du Canal 10 en ramasse presque autant. On a recueilli, en tout et pour tout, près de 600 000 $ pour les sinistrés. Donc, clairement, la population a été touchée par ce qu'elle a vu, lu et entendu.
Le Canal 10, c'était
Télémétropole.
Oui, Télémétropole, c'est ça,
le
qui 6, est devenu TVA.
Le 6, c'était la CBC en anglais. Le 12, c'était CFCF, CTV, aujourd'hui. Bien évidemment, on lance une enquête pour déterminer les causes de la déflagration. Et il y avait deux mots sur toutes les lèvres dans les heures qui ont suivi la tragédie, le gaz. Les locataires s'étaient plaints à plusieurs reprises d'odeurs de gaz, de bruits épeurants lorsqu'ils montaient le chauffage. Le chauffage fonctionnait au gaz dans le complexe. Et sur le coup, le responsable des relations publiques de la Corporation du gaz naturel du Québec, le futur gaz métropolitain, qui s'appelle aujourd'hui Énergir, a déclaré sans embâche que les gens qui pointaient le gaz du doigt parlaient à travers leur chapeau. Il a dit que la société allait participer à l'enquête, mais qu'il ne voyait pas pourquoi on regardait du côté du gaz naturel. Mais on regardait de ce côté-là parce que c'est le gaz qui était en cause. L'enquête a démontré qu'une fissure dans une conduite qui se trouvait environ 25 pieds derrière la bâtisse avait causé une accumulation de gaz. C'est ça qui avait explosé. Et une autre raison pour laquelle les résidents et résidentes ont immédiatement pensé au gaz, c'est que ce n'était pas la première fois que ça se produisait. La tragédie du 1er mars 1965 était une copie presque conforme d'une autre tragédie survenue 9 ans plus tôt. Un édifice du même complexe de La Salle Heights, qui était situé à un coin de rue de là, avait été éventré par une explosion causée par une fuite de gaz. Et les similitudes entre les deux événements sont remarquables. L'explosion était survenue presque à la même heure, c'était 8h17 du matin, alors que c'était 8h10 en 1965. Le même Irénée Tremblay était chef des pompiers lors des deux tragédies. Là aussi, les marins sont venus aider à fouiller les décombres. Les 7 victimes, il y avait eu 7 morts cette fois-là, appartenaient à 2 familles. Bref, on a 35 morts dans des circonstances similaires dans le même développement résidentiel. On a passé le réseau de gaz du secteur au peigne fin, bien évidemment, éviter qu'une tragédie comme celle-là se produise à chaque 9 ans. On parlait aussi de remplacer le chauffage au gaz par un chauffage électrique pour les bâtiments du complexe. Je ne sais pas si ça s'est fait là. Je pense que ça aurait été une sage décision. Mais à travers la longue enquête, les poursuites, le comité de résidents qui a été créé après le 1er mars, le public a un peu perdu la trace de la tragédie, surtout qu'au lendemain de l'explosion, Lucien Rivard, un des criminels les plus célèbres du Québec de l'époque, s'est évadé de prison. On s'est passionné pour sa cavale qui a duré 4 mois. Et déjà, à ce moment-là, Francine et Yvan, l'explosion de la salle Heights était un peu passée à l'arrière-plan. Voilà.
C'est bien triste, mais c'est un peu ça l'actualité, hein?
Bien, déjà, à ce moment-là, on dit souvent dans le monde d'aujourd'hui, tout va tellement vite, on n'a pas le temps de suivre un dossier en profondeur. C'est pas un phénomène qui est nouveau, nécessairement.
Non, effectivement.
Lucien Rivard, c'est lui qui avait voulu arroser une patinoire qui n'existait pas, puis il est parti avec le boyau d'arrosage pour sauter.
Bien, c'est ce qu'on a raconté.
Ça fait partie
dans
du
quelle
folklore.
Mesure, c'est ça fait partie de la légende, ça, je suis pas certain de ça. Mais effectivement, c'est ce qu'on a dit, c'est un caïd importateur d'héroïne qui s'était, qu'on cherchait à extrader aux États-Unis à ce moment-là.
Bien, merci, Marcel. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. Puis écoutez, si vous voulez faire un petit 10 minutes de gossip et tout ça, c'est ouvert, là. Croyez pas que je vais m'objecter, pas du tout.
Je vais voir ce que je peux faire.
Ah! Oh, ça, c'est intéressant,
bon week-end! À la semaine prochaine, Marcel.
À la semaine prochaine.